Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 6 juin avec le journal de Sébastien Eugénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel ce soir commence par une visite impossible.
La visite du ministre russe des Affaires étrangères en Serbie. Tous les pays européens autour de Belgrade ont décidé de fermer leur espace aérien, empêchant ainsi la venue de Sergueï Lavrov, un acte hostile selon le Kremlin. Nous serons à Moscou. À suivre également le gouvernement au chevet des agriculteurs, sévèrement touchés par les orages de grêle, des jeux vidéo bons pour la santé et peut-être un jour remboursés par la Sécu, et puis une jurée du Livre Inter, encore toute chose après avoir participé à cette expérience humaine et littéraire.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir je vous présente le correspondant de France Inter à Shanghai, Simon Leplâtre, alors que enfin la ville s'ouvre. Ça a été une épreuve, ce confinement à Shanghai, et pour Simon aussi. D'ailleurs, il est rentré soufflé en France. Il va nous raconter comment ça se passe là-bas et comment ça s'est passé. Surtout à 19h20, c'est le téléphone sonne avec cette question. Est-ce que cliquer, c'est polluer? J'ai un petit livre à usage des plus jeunes entre les mains. C'est quoi l'impact d'Internet sur la planète? Est-ce que je dois vider tous mes emails? Est-ce qu'il y a des trucs? Ou bien, comment reculer au maximum l'obsolescence programmée de mes appareils? Il y a plein de pédagogie vraiment à faire avec nos invités, avec vos questions, surtout au 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand l'Europe donc perturbe le plan de vol d'un ministre russe.
Oui, c'est un nouvel épisode dans la guerre des sanctions contre Moscou. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie du Kremlin, avait prévu de se rendre dans un pays ami, en Serbie, pour 2 jours, aujourd'hui et demain. Mais les pays voisins de la Serbie ont contrecarré les plans du ministre. La Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro ont tout simplement fermé leur espace aérien à l'avion qui devait transporter le diplomate de Moscou à Belgrade. Sergueï Lavrov et le Kremlin dénoncent un acte hostile. Les précisions de Sylvain Tronchet à Moscou.
C'est un Sergueï Lavrov manifestement très irrité qui s'est présenté en conférence de presse ce midi à Moscou. Le chef de la diplomatie russe avait déjà dû renoncer à une réunion des Nations Unies en mars à Genève. S'il continue à voyager en Asie notamment, l'Europe vient bien de lui signifier qu'elle lui fermait totalement tous ses accès. Sergueï Lavrov est sous sanction et donc interdit de survol de l'Union Européenne. La Macédoine du Nord et le Monténégro, qui n'en sont pas membres mais appartiennent à l'OTAN, ont décidé eux aussi de lui fermer leur ciel. Le chef de la diplomatie russe a, comme à son habitude, crié à la violation des principes du droit international.
Ce qui s'est passé est essentiellement la privation du droit d'un État souverain à mener sa politique étrangère. Il s'agit d'une nouvelle démonstration très claire et instructive que l'OTAN et même l'Union européenne peuvent aller jusqu'à utiliser les moyens les plus minables pour influencer ceux qui sont guidés par des intérêts nationaux et qui ne sont pas prêts à sacrifier leurs principes en se pliant aux règles que l'Occident impose au lieu du droit international.
Du côté de Belgrade, on regrette également ces interdictions de survol. La Serbie, qui est officiellement candidate à l'entrée dans l'UE, est traditionnellement pro-russe. Elle s'en est même encore rapprochée ces derniers mois. Sa compagnie nationale dessert toujours l'aéroport de Moscou et elle a signé avec la Russie un contrat pour la fourniture de gaz russe à prix préférentiel. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
C'est un vrai désastre climatique, Sébastien.
Les mots de la FNSEA qui demande un plan d'urgence après les orages de grêle de ce week-end. Des centaines de maraîchers, d'arboriculteurs, de céréaliers, de vignerons dont les récoltes sont parfois réduites à néant. Le nouveau ministre de l'Agriculture s'est rendu sur une exploitation très touchée en Gironde. Marc Fesneau qui a fait quelques annonces. On l'écoute.
On va activer très rapidement les dispositifs qu'on connaît, les dispositifs d'allègement des charges sociales, les dispositifs de défiscalisation sur la taxe sur le foncier non bâti. Ça, c'est des éléments plus classiques. Il y a une demande qui a été faite pour faire en sorte que ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État, les PGE, puissent être prolongés un peu dans la durée, parce qu'on voit bien qu'on va avoir dans ces exploitations un sujet de charges déjà acquises et de recettes qui ne vont pas arriver. C'est souvent sur une année, mais c'est souvent sur plus d'une année, parce que la perte de recettes, elle se répercute aussi pour ceux qui ne pourront pas fournir l'an prochain et honorer les contrats d'approvisionnement en vin et qui vont perdre des clients.
Voilà, sur le terrain, les agriculteurs tentent d'anticiper les prochains épisodes de grêle, notamment en Touraine, où certains vignerons utilisent déjà des systèmes anti-grêle, des diffuseurs d'ionure d'argent pour faire fondre les grêlons. Mais ça coûte cher et ce sont eux pour le moment qui payent. Comme Benoît Gauthier, il est vigneron à Rochecorbon et il demande le soutien des pouvoirs publics.
Seuls les vignerons participent à allumer, à détenir des diffuseurs. Et ce qu'on souhaiterait bien, c'est que les collectivités, le département, enfin tout organisme qui est capable d'avoir une organisation, puisse nous aider à acquérir des diffuseurs à les entretenir et à payer cette solution afin de protéger beaucoup plus largement, parce que s'il y a plus de diffuseurs, le moyen de protection est beaucoup plus important. On va couvrir une grande surface. À chaque fois qu'il y a un risque, on peut déclencher les appareils pour réduire l'intensité du nuage d'orage qu'il peut y avoir.
Benoît Gauthier avec Solène Gardret de France Bleu Touraine. C'est dans 3 heures environ qu'on saura si Boris Johnson a sauvé sa tête ou pas à la tête du 10 Downing Street. Après les scandales à répétition, le Premier ministre britannique affronte ce soir un vote de défiance de sa majorité conservatrice. Toujours à l'étranger, on part en Inde, secoué par une crise diplomatique inédite. New Delhi fait face depuis ce week-end à la colère de plusieurs pays musulmans du Moyen-Orient. Au départ, il y a des propos jugés insultants envers le prophète Mahomet, tenu par des porte-parole du parti nationaliste hindou du BJP au pouvoir en Inde. C'est la correspondance à New Delhi de Sébastien Farcy.
C'est lors d'un débat télévisé de la semaine dernière qu'une porte-parole nationale du BJP, Nupur Sharma, a tenu des propos dénigrants envers le prophète Mahomet par rapport à l'âge de sa femme Aïcha. Un autre porte-parole a ensuite tweeté dans la même veine. Cela a d'abord heurté la communauté musulmane indienne qui a déposé plainte contre cette dirigeante. Et des manifestations ont eu lieu, mais ont été fortement réprimées, les autorités parlant même d'un complot islamiste. Jusque-là, le scénario est tristement ordinaire ces derniers temps en Inde. Mais le BJP en a perdu le contrôle quand le Qatar, l'Iran, le Koweït et l'Arabie Saoudite ont aussi condamné ces propos. Le Qatar, qui fournit près de la moitié du gaz indien et où le vice-président se trouve en visite, exige même des excuses publiques et des actions systématiques contre l'islamophobie croissante en Inde, faute de quoi, je cite, « cette inaction sera considérée comme une insulte délibérée aux 2 milliards de musulmans ». Le BJP a donc exceptionnellement réagi en sanctionnant ces deux porte-paroles et soutient maintenant qu'ils respectent toutes les religions. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Ils sont souvent très décriés et pourtant, Sébastien, les jeux vidéo sont aussi bons pour la santé.
Jeux vidéo et santé, c'était en effet le thème d'une série de rencontres ce week-end à la Cité des Sciences de Paris, en EHPAD, en centre de rééducation ou pour détecter la maladie d'Alzheimer. Les jeux thérapeutiques, comme on les appelle, sont de plus en plus utilisés auprès des patients. Un outil complémentaire, Manon Minaka, aux méthodes plus classiques.
Dans l'EHPAD de région parisienne où travaille Aurélie Kugelmann, c'est devant un écran que les résidents travaillent leur mobilité. Ici, pas de manette. Ils doivent par exemple se lever et s'asseoir pour faire pousser un arbre.
C'est beaucoup plus ludique qu'une séance de kiné où là, ils se rendent compte que c'est vraiment du travail. Ils sont plus concentrés sur le jeu et de faire évoluer les personnages ou trouver les solutions. Ils aiment bien parce que ça reste un jeu, c'est très visuel, il y a beaucoup de couleurs. Ils sentent qu'ils ont travaillé, que ça leur a fait du bien, tout en s'amusant.
Travailler en s'amusant, c'est aussi l'objectif de Sea Hero Quest, un jeu où l'on incarne le capitaine d'un bateau qui doit s'orienter en mer. En cours de développement, l'application doit aider les médecins à repérer le plus tôt possible la maladie d'Alzheimer, dont l'un des symptômes précoces est la désorientation spatiale. Antoine Coutreau, chercheur au CNRS et co-développeur du jeu.
Là, actuellement, les tests d'orientation qui sont utilisés pour aider au diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est un peu chaque médecin qui définit son propre test. L'avantage du jeu vidéo, c'est que ça donne un cadre facilement transposable d'une unité de soins à une autre et qui permet ensuite de comparer les résultats des différents patients.
Certains jeux pourraient même être délivrés sur ordonnance. Une application pour tablette destinée à aider les enfants atteints de dyslexie est en cours d'essai clinique. Si les résultats sont concluants, l'objectif est à terme qu'elle soit remboursée par la Sécurité sociale.
Manon Minaka, les cérémonies du D-Day, 78e anniversaire aujourd'hui du débarquement du 6 juin 44. Cérémonie donc toute la journée de ce lundi, notamment ce matin à 7h23 exactement à Colville-Montgomery, sur la plage de Sword Beach, un hommage au commando Kiefer, ce commando de marine français créé en Angleterre en 1942. Reportage de Bradley de Souza.
10 membres du commando marine pour rendre hommage à un autre commando. Le commando Kiefer débarque sur Sword Beach il y a 78 ans.
Ça va faire plus de 30 ans que j'assiste aux cérémonies ici à Colville-Montgomery. Je suis natif de Dieppe. J'ai voulu rendre hommage à tous aux 177 Français qui ont participé au débarquement du 6 juin.
Comme Bruno, si le public assiste à cette cérémonie, c'est pour montrer sa reconnaissance. Bertrand habite à Ouistreham.
Aujourd'hui, la France est ce qu'elle est, en partie grâce à ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire les libertés et toutes ces choses-là qu'on connaît aujourd'hui, ce serait peut-être pas la même si ce qui s'est passé à cette époque ne s'était pas passé.
Un hymne mais des commémorations pour défendre la liberté.
Se rappeler de tout ce qui s'est passé ici pour la liberté et la paix en Europe.
Frédéric Loinard, le maire de Colville-Montgomery.
Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que 78 ans après, il y a un conflit là, qui est un peu plus à l'est et qui rappelle effectivement, malheureusement, ce qu'ont connu nos anciens, ici même, sur la terre de France.
Une terre de liberté, et pour Frédéric Loinard, cette cérémonie doit servir à rappeler que la paix reste fragile.
Bradley de Souza de France Bleu Normandie. Que s'est-il passé ce samedi matin à 10h45 dans les rues du 18e arrondissement de Paris? Un nouveau contrôle de police qui tourne au drame. Cette fois, ce sont trois policiers à VTT qui sont impliqués après le contrôle d'une voiture et de ses quatre occupants à l'angle du boulevard Barbès. Délit de fuite, refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre ont ensuite tiré 9 fois sur le véhicule, blessant gravement le conducteur et tuant sa passagère avant. 2 enquêtes sont ouvertes. La garde à vue des 3 policiers, on l'a appris ce soir, a été prolongée. L'affaire a aussi pris un tour politique. Dans 2 tweets, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une police, je cite, qui tue, coupable d'appliquer la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Les policiers, les gendarmes méritent le respect, lui a répondu le ministre de l'Intérieur. Quant au syndicat des policiers Alliance, il porte plainte pour la 3e fois contre le chef de file des Insoumis.
Et puis elle avait envoyé sa lettre de Glasgow sans grand espoir.
On parle ici d'une des 24 jurés du prix du Livre Inter qui ont débattu vigoureusement tout ce week-end avant de rendre leur verdict ce matin. Lauréat 2022, on le sait, Antoine Wouters avec Mahmoud ou La Montée des Eaux. Et parmi ces 24 jurés, donc une jeune Française de 32 ans, serveuse dans un pub à Glasgow en Écosse, totalement émerveillée par cette expérience. Réaction à chaud après 2 jours très intenses. Aurore Carleton est au micro d'Eva Bétan.
J'ai l'impression d'être exténuée, mais tellement heureuse. J'ai vécu une expérience incroyable. J'ai eu beaucoup de palpitations et beaucoup de peine à pouvoir m'exprimer, surtout par rapport à des gens qui ont beaucoup de talent et qui ont la capacité parfois de faire une plaidoirie en plein milieu de l'après-midi. Mais j'ai pris la parole, surtout quand il a fallu défendre Mahmoud ou La Montée des Eaux et qu'on était entre le 2e et le 3e tour. Et là, je me suis dit, bon, c'est ton moment, il faut prendre le taureau par les cornes.
Alors là, vous repartez pour Glasgow ?
Demain matin. J'ai essayé de faire le parallèle avec ce que ça voulait dire sur place. On parle de Booker Prize en Grande-Bretagne et j'ai essayé de faire le parallèle du You Know France Inter, ce qui pourrait en être l'équivalent du prix France Inter, mais en fait c'est tellement inédit. Mais en tout cas, mes collègues étaient très fiers et puis je serais heureuse de raconter surtout que j'ai défendu le livre qui moi m'avait le plus ému.
Ben voilà, Do You Know France Inter, We Know France Inter, We Love.
Little Bit, We Love it, France Inter. Also, Absolutely, Sébastien, thank you very much.
See you.
And I will see you in a few minutes. Voilà, vous nous raconterez la fuite de 2 jeunes femmes, 2 haltérophiles iraniennes tout à l'heure dans Sous les radars. Ce soir, nous échangeons avec Simon Leplâtre qui a quitté Shanghai pour souffler un petit peu. Il va nous raconter son confinement, le confinement très très sévère qu'ont vécu tous les gens à Shanghai à 19h20. Je vous le remets dans l'oreille, c'est le téléphone sonne. On va se demander si surfer, c'est polluer. Est-ce qu'Internet pollue? Est-ce que je dois effacer mes emails? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que je dois éteindre ma box? Est-ce qu'il suffit de résister à acheter régulièrement des appareils, lutter contre l'obsolescence programmée? C'est vrai que le streaming est un bouffeur d'énergie ou pas? Alors, est-ce qu'on peut être décroissant numérique en 2022? J'ai entre les mains un petit livre à usage des plus jeunes, ce que ça concerne au premier chef. Et pour vous tous, ça se passe au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et Jean-Pierre Hameau, bonsoir. Souvent nuageux, voilà pour le programme de demain matin.
Oui Fabienne, les nuages seront souvent au rendez-vous dès le lever du jour, en particulier des Hauts-de-France à la région Grand Est, débordant sur la Bourgogne-Franche-Comté, avec en prime de faibles passages pluvieux. Prévoyez une bonne couverture nuageuse aussi entre le Pays Basque et Midi-Pyrénées, et pour profiter du soleil, direction la Grande Bleue. L'après-midi, vous allez retrouver quelques pluies près des frontières du Nord et du Nord-Est. Partout ailleurs, votre après-midi sera souvent agréable, avec de belles périodes ensoleillées. Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 70 km/h dans leur domaine. À noter l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse en cours d'après-midi sur la pointe bretonne. Elle traversera le pays d'ouest en est mercredi. Les pluies associées seront parfois soutenues. Côté température, les maximales évolueront généralement entre 18 et 25 degrés, avec 18 à Cherbourg, 19 à Abbeville, 22 à Nancy, 23 à Paris et Bordeaux, 25 à Toulouse. Puis vous retrouverez la chaleur dans le sud-est, comptez 31 à Orange et encore 33 à Marseille.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup Jean-Pierre, à tout à l'heure après 19h.